Bonjour, frères et sœurs. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme et motivés. Car ce matin, je vous propose que nous courions ensemble. Mais rassurez-vous, je vais pas vous demander d'enfiler un short et un maillot pour courir dans les rues de Charleville. Non, ce que je vous propose, c'est que nous courions la vie chrétienne. Voilà. La course de la vie chrétienne. C'est là le thème de la prédication de ce matin. Et cette prédication, je l'ai intitulée « La vie chrétienne, une course d'endurance ». Pour cela, je me suis appuyé, comme d'autres auparavant, sur un verset. C'est le verset 1 du chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Alors, l'auteur nous parle des héros de la foi dans ce verset, héros dont il a esquissé le portrait au chapitre 11 de cette même épître. Dans ce verset, il nous est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quels sont ces témoins ? Ces témoins sont les croyants, des hommes et des femmes pieux de l'Ancien Testament. » Ces hommes et ces femmes étaient les témoins de la grande vérité qui dit « Le juste vivra par la foi ». Ils nous entraînent à leur suite dans la course de la foi. Ils ne sont pas des spectateurs qui nous regarderaient courir aujourd'hui. Ils ont été les témoins d'autrefois par leur exemple et ils stimulent dans notre course chrétienne. Nous donnant une image d'énergie, d'endurance et de concentration. Nous avons également dans le Nouveau Testament des héros, des témoins de la foi, des chrétiens qui ont suivi le Seigneur Jésus par la foi jusqu'au bout de leur marche, comme l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, Luc, Timothée et les femmes pieuses qui suivaient Jésus dans son ministère. Pour ne citer que, frères et sœurs, quelle nuée de témoins il y a là autour de nous. Il vaut la peine d'étudier leur vie, de tirer les leçons pratiques de l'existence de ces hommes et de ces femmes. C'est un privilège de pouvoir les considérer. Mais qu'a-t-il dit ensuite dans ce verset ? Il est dit, ayant ces témoins autour de nous, nous devons courir avec patience et persévérance la course qui est devant nous. La vie du chrétien est donc bien une course. C'est une course dont le but final est le moment où le Seigneur Jésus viendra nous chercher. Mais jusqu'à ce moment, c'est une course, et cette comparaison nous parle. En effet, une course nécessite de l'énergie, de la concentration et de l'endurance. En nous encourageant à courir avec patience, la Bible met l'accent sur l'endurance. La vie chrétienne n'est pas un 100 mètres, mais plutôt une course longue et difficile où l'endurance est l'élément essentiel. Cette course a pour point de départ le baptême qui est le point de départ symbolique d'une vie nouvelle. Mais ce baptême est aussi un point d'arrivée car c'est l'aboutissement d'un développement spirituel que Dieu par sa grâce a permis. À présent, je vais vous raconter une anecdote concernant la course à pied. Dans le club où je pratiquais cette discipline, il y avait deux champions de valeur à peu près équivalentes. L'un était plutôt orgueilleux et imbu de sa personne, tandis que l'autre était réservé et humble. Un jour, ces deux athlètes se sont retrouvés au départ d'une course de 10 km sur piste. Au moment du départ, l'athlète humble est bousculé par des adversaires et il tombe. S'apercevant de cela, l'athlète orgueilleux prend la direction de la course et mène un train qui est supérieur à ses capacités et il termine la course loin de ses adversaires dans un piteux état car il a explosé, comme on dit dans le jargon sportif. Quant à l'athlète humble, après s'être relevé de sa chute, il a remonté progressivement le peloton à une allure qui lui convenait et à la fin, il a fini par gagner la course. Cela m'amène à vous dire que, comme dans une course, certains chrétiens, après avoir bien commencé, finissent tristement, à l'image du roi Salomon, tandis que d'autres terminent mieux qu'ils n'avaient commencé. C'est notamment le cas de Saül de Tarse, devenu l'apôtre de Paul. L'apôtre Paul. Salomon est l'exemple classique de la personne qui a bien commencé, mais qui a finalement mal tourné. Sa dévotion entière à l'Éternel et sa sagesse proverbiale le destinaient à une prodigieuse réussite. De fait, il connut la gloire, la paix et la prospérité dans son règne, tant que son cœur resta attaché à l'Éternel. En 1 Roi 10, 23, 24, il est écrit « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. » Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Seulement, ne l'oublions pas, nos points forts ont leurs points faibles. Si nous n'y prenons garde, nos points forts peuvent nous jouer des tours dans le domaine même où nous excellons. C'est ce qui s'est passé pour Salomon. Malgré sa dévotion à l'Éternel, Salomon se faisait livrer des chevaux en provenance d'Égypte, nous dit 1 Roi 10, 28. C'était de l'Égypte que ses troupes, à un prix fixe, et ce, en dépit de l'interdiction formelle énoncée en Deutéronome 17, 16. Voici ce que dit Deutéronome, « Mais qu'il n'y ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Cet écart de conduite correspond bel et bien à une transgression du commandement de Dieu. Par ailleurs, la sagesse de Salomon, toute grande qu'elle fût, ne l'empêcha nullement de commettre de grosses bêtises et de s'adonner aux pires excès, comme nous le montre 1 Roi 11, versets 1 à 4, où il est écrit « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Comment un grand roi comme Salomon, au jugement perspicace et d'un discernement remarquable, qui faisait de lui un maître à penser recherché, a-t-il pu se laisser aller au point de renier par son comportement déraisonnable toute sa science morale et toute son intelligence spirituelle? La seule réponse est à chercher dans l'état de dépravation totale du cœur humain, désespérément mauvais et obstinément incurable. Quel contraste avec l'apôtre Paul, qui, contrairement à Salomon, avait mal commencé la course, mais connaissant la fragilité et la vulnérabilité de l'homme, s'astreignait à une discipline personnelle, rigoureuse et vigilante. Lui-même a écrit en 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ce verset est l'un des plus forts dans le Nouveau Testament. Apprenez la nécessité de la maîtrise de soi et de la discipline personnelle. L'examen de ce verset laisse apparaître trois idées fortes. L'apôtre parle en premier lieu de traiter durement son corps, à l'image d'un meneur de char tiré par des chevaux qui, dans une course, devra à tout prix garder le contrôle de ses chevaux au moyen d'un fouet et des rênes s'il veut prétendre à la victoire. Ce sport n'est pas un sport de fillette. C'est une discipline dure comme l'est celle de traiter durement son corps. Paul parle ensuite de tenir son corps assujetti. Cela signifie qu'il cherche à tout prix à se rendre maître de son corps pour qu'il puisse l'utiliser comme instrument. ce n'est pas à Paul de suivre les désirs et les injonctions de son corps, c'est plutôt son corps qui devra se mettre au service de Paul. En troisième lieu, il est impressionnant de voir les craintes de ce grand apôtre, d'être rejeté ou disqualifié après avoir prêché aux autres, comme dans une course de vitesse, ou si un athlète sort de son couloir, il sera disqualifié parce qu'il n'aura pas respecté les règles de la compétition. Paul était loin de se prévaloir des galons spirituels qu'il avait pu acquérir auparavant. Il cultivait plutôt une attitude d'humilité lucide et de vigilance personnelle qui le faisait rester sur le qui-vive car il se considérait trop vulnérable. Aussi s'éprouve-t-il lui-même et sans concession. Le but premier de ce grand apôtre était de connaître le Seigneur et son but ultime était le ciel. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait. Nous devons aussi courir comme Paul l'a fait, avec les mêmes motivations que lui. Pour cela, il nous faut connaître la manière et les moyens pour atteindre ce but. J'espère pouvoir le faire en toute humilité, en comparant la course d'un athlète engagé avec celle d'un chrétien engagé lui aussi. Certes, vous connaissez sans doute ce que je vais vous dire à propos de la vie chrétienne au cours de cette comparaison, mais, comme le dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître, il est bon de se rappeler les choses que l'on sait déjà, afin que l'on s'en souvienne toujours. Donc, je vais faire cette comparaison. Dans cette comparaison, j'ai trouvé 12 points qui sont essentiels. Premièrement, en premier lieu, un athlète doit avoir une nourriture particulière en fonction du sport qu'il pratique. Il doit renoncer à certains aliments ou boissons et bien réfléchir au régime qu'il suit. Pour le chrétien, sa nourriture particulière est la parole de Dieu. Il doit renoncer à tout ce qui est contraire à cette parole et réfléchir à cette parole qui le pousse toujours à se remettre en question. Deuxièmement, au cours d'une compétition, un coureur ne porte pas de charge inutile et il revêt une tenue la plus légère possible. Le chrétien, au cours de son cheminement terrestre, ne doit pas porter de fardeau lourd. Il doit les laisser au pied de la croix, comme cela est écrit dans Hébreux 12, verset 1b, « Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Troisièmement, au cours d'un 100 mètres, le coureur doit impérativement rester dans le couloir de la piste qui lui a été attribuée. De même, le chrétien ne doit pas dévier au cours de sa vie du droit chemin. Le chemin étroit au risque de faire fausse route et d'emprunter le chemin spacieux qui mène à la perdition, comme il est écrit en Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Quatrièmement, un athlète doit s'entraîner chaque jour régulièrement afin d'être compétitif et de pouvoir être vainqueur. De même, le chrétien doit s'entraîner chaque jour à mener une vie spirituelle sincère, c'est-à-dire de ne pas se tourner sporadiquement vers le Seigneur quand il en a besoin. La foi chrétienne s'entretient par la communion constante avec le Seigneur, la parole de Dieu, la prière et le contact fraternel. Cinquièmement, un coureur qui ne respecte pas les règles qui lui sont imposées est disqualifié. De plus, il ne doit en aucun cas gêner ses adversaires. Le chrétien doit lui aussi courir selon les règles qui sont énoncées dans la parole de Dieu. Sinon, à la fin de la course, c'est-à-dire au jugement dernier, il sera disqualifié. « Je ne vous ai jamais connu, a dit le Seigneur, à ceux qui n'ont pas respecté la vérité biblique. » Matthieu 7, 23. Comme le coureur ne doit pas gêner ses adversaires, le chrétien ne doit pas mettre de bâton dans les roues d'un frère ou d'une sœur, car cela déplaît au Seigneur. Sixièmement, un sportif de haut niveau a besoin d'un entraîneur dont la fonction est de l'encourager, de l'aider à progresser, tout comme le chrétien a lui aussi besoin d'un entraîneur pour les mêmes raisons, et cet entraîneur est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous encourage, nous aide, nous stimule dans notre foi grâce au Saint-Esprit qu'il a placé en nous. Septièmement, un coureur ne regarde généralement pas en arrière pour voir où sont les autres, et il ne pense pas à ses soucis quotidiens qu'il a laissés dans le vestiaire, au risque d'être moins efficace et de ne pas remporter la course. De même, le chrétien ne doit pas regarder en arrière, comme la femme de Lot qui a été transformée en statue de sel. « Oublions ce qui est en arrière », a écrit l'apôtre Paul dans Philippiens 3:13b. Huitièmement, comme le coureur, le chrétien doit oublier ses soucis, ses difficultés, sa vie passée modeste, mauvaise, tout ce qui peut gêner sa course. Voir Hébreux 12:1 cité précédemment. Neuvièmement, un athlète ne doit pas regarder à droite ou à gauche pour se comparer aux autres, tout comme le chrétien ne doit pas lui aussi regarder à droite ou à gauche, c'est-à-dire qu'il ne doit pas juger telle ou telle personne qui a une autre manière de courir que lui, qui a d'autres opinions ou d'autres méthodes. Que t'importe, suis-moi, a dit Jésus à Pierre, qui s'inquiétait au sujet de Jean. Dixièmement, un coureur court, c'est évident. Cela veut dire qu'il ne marche pas, ni ne se promène. De même, nous devons, en tant que chrétiens, aller résolument de l'avant, comme l'a écrit l'apôtre Paul. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Onzièmement, le coureur ne fait pas non plus du surplace, ni ne s'arrête au cours de la course. De même, le chrétien ne doit pas faire du surplace, c'est-à-dire ne pas avancer dans la vie. Sa course doit être résolue, faite avec zèle, ardeur et conviction. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Douzièmement, enfin, dans une course, il y a en général des spectateurs, c'est-à-dire des gens qui regardent, encouragent, observent la foulée, la respiration, la piste, l'attitude, l'endurance des athlètes. Parmi ces spectateurs, il y a des supporters qu'il faut satisfaire car ils s'investissent et veulent être fiers de l'athlète qu'ils supportent. Dans notre vie, il y a aussi des spectateurs, des personnes qui nous regardent. Le monde observe les chrétiens. C'est pour cela que nous devons donner un bon témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être son supporter, fier de lui en témoignant de sa personne ouvertement et résolument. Chers frères et sœurs, après vous avoir relaté différents points qu'il nous faut appliquer au cours de notre vie chrétienne, je vais vous parler maintenant de deux vertus essentielles qu'il nous faut posséder pour mettre en pratique ce que je viens de vous énumérer. Ces deux qualités sont la motivation et la persévérance. En ce qui concerne la motivation, tout comme le coureur de marathon ne se lance pas dans cette course sans être motivé, le chrétien, pour arriver au bout de la course de la vie chrétienne et franchir honorablement la ligne d'arrivée, doit lui aussi avoir une grande motivation pour atteindre son but. Cette motivation doit être une bonne motivation, aussi bien pour le coureur de marathon qui ne participe pas à cette compétition sans vouloir ni sans avoir réfléchi à ce qu'un tel engagement exige, que pour le chrétien qui doit se rappeler que Jésus a toujours invité ceux qui voulaient le suivre à faire preuve de lucidité et à prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Jésus nous dit en Luc 9:23 « Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dès l'instant où l'on veut suivre Jésus, il faut bien comprendre et accepter qu'il y aura un prix à payer. Et l'on sera d'autant plus disposé à payer ce prix que l'on saura pourquoi il faut payer. Si cette motivation existe en nous, le reste suivra, notamment la mise en application de ce que je vous ai exposé concernant la vie chrétienne. Nous touchons là un des points fondamentaux de la discipline personnelle. Elle doit être librement consentie et consciemment assumée. C'est ce qui la distingue du légalisme, qui est une contrainte imposée de l'extérieur. En ce qui concerne la persévérance, il faut tout d'abord savoir que la course pour Christ se fait sur un chemin semé de difficultés et de souffrances, et notre foi peut chanceler. En effet, il faut admettre que parfois nous baissons les bras en proie au découragement. C'est alors qu'il nous faut relire cette exhortation « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Cette course de la vie chrétienne doit donc être faite avec persévérance, car c'est une course de fond, un marathon plutôt qu'un sprint. La persévérance, l'endurance, la constance, la fidélité sont autant de termes pour décrire comment devrait être la course chrétienne, autant dans la prière que le témoignage ou les bonnes œuvres. Tout comme un athlète vise son objectif sans s'en détourner, c'est en gardant nos regards fixés sur Jésus que nous pouvons garder courage et persévérer dans l'épreuve. Jésus est celui qui nous a montré l'exemple pour nous encourager malgré les souffrances. Il est écrit en Hébreux 12:2 « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. » Après avoir fixé les yeux sur Jésus, cela implique de vouloir lui ressembler à tout point de vue, de l'avoir comme modèle et par conséquent agir comme lui aussi aurait agi en telle ou telle circonstance. Pour cela, je vous invite à lire le livre « Que ferait Jésus à ma place ?» Considérons également cette nuée de témoins cités en Hébreux 12:1, qui eux aussi nous montrent l'exemple, aujourd'hui encore, d'une vie vécue avec persévérance et fidélité dans l'épreuve. Après vous avoir parlé de la motivation et de la persévérance que doit posséder le chrétien pour mener à bien la course de la vie chrétienne, je vais à présent vous parler de l'importance qu'il y a de ne pas courir seul. Et je terminerai en vous parlant du prix qui sera décerné à ceux qui auront réussi l'épreuve. Frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que nous ne pouvons pas nous permettre de courir seuls la course de la vie chrétienne, d'une part parce que nous sommes tous membres d'une même équipe, d'un même corps, comme cela est relaté en 1 Corinthiens 12. Et d'autre part, nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir et nous relever, et cela par la prière et l'entraide. Paul nous invite à cette coopération en écrivant aux Philippiens, au point où nous sommes parvenus, avançant ensemble. Voilà pourquoi nous sommes encouragés, nous sommes exhortés, au nom de nos frères et sœurs persécutés, de nos frères et sœurs pauvres, à prier pour eux, à les soutenir, tant matériellement que spirituellement. Il faut aussi avoir à l'esprit que la vie chrétienne est comme une course de relais, durant laquelle c'est la parole de Dieu qui se transmet. L'enseignement de la parole de Dieu est nécessaire pour l'édification de notre foi. Cela est valable pour la transmission de la parole aux jeunes générations, ici aussi bien que vis-à-vis des chrétiens à travers le monde qui ont moins d'enseignement de cette parole pour grandir dans la foi et la connaissance du Seigneur. Pour ce qui concerne la récompense obtenue à la fin de la course, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens pour les encourager « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir. » Nous l'avons vu, un athlète s'entraîne en s'imposant une discipline sévère et cela pour obtenir une couronne éphémère. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, nous dit 1 Corinthiens 9:25. Alors que ceux qui courent pour Christ recevront une couronne de gloire incorruptible. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne perd jamais. Son éclat, nous dit 1 Pierre 5:4. Cette couronne promise par Dieu en récompense pour ceux qui auront suivi Christ avec endurance est aussi une couronne de vie éternelle. Dans l'Apocalypse, la souffrance de l'Église de Smyrne est annoncée, ainsi qu'un appel à la fidélité afin de recevoir finalement cette couronne. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2:10. À présent, frères et sœurs, voici la conclusion que nous pouvons tirer de tout ce qui vient d'être dit. Tout comme le sportif de haut niveau, poursuivons notre course, même si elle est difficile. Persévérons et n'oublions pas que nous sommes une équipe dans la foi et que chaque membre de l'équipe a besoin des autres pour remporter finalement le prix que Dieu promet à ceux qui surmontent l'épreuve. Puisse Jésus nous entendre dire comme l'apôtre Paul à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Puissions-nous en dire autant à la fin de notre vie. Amen. »